La première semaine dans les Rocheuses fut assez difficile. Épuisé par les épreuves et les émotions qui s'étaient enchaînées depuis que le ciel lui était tombé sur la tête, Jimmy avait dormi 24 heures. Ensuite avaient commencé les examens. Le président exigeait un bilan complet, une connaissance exhaustive du prototype humain dont ses services allaient faire le messie du XXIe siècle. Dans les différents laboratoires aménagés au sous-sol du chalet de cèdre noir, utilisé habituellement pour le débriefing des terroristes et des transfuges, les prélèvements avaient succédé aux radios, les tests d'effort aux évaluations des quotients intellectuels, affectifs, médiumniques, les séances de thérapie expérimentale aux plongées sous hypnose, et les chercheurs étaient perplexes. Reparti 3 jours à Washington, Irwin avait trouvé au retour une anxiété à couper au couteau. Sous les poutres vitrifiées de la salle à manger, les divers spécialistes lui avaient présenté leur rapport. Seul point positif, Jimmy était en excellente santé. Ses organes et son métabolisme correspondaient à ceux d'un trentenaire, alors que les divisions cellulaires héritées de Jésus auraient pu aboutir au bilan général d'un homme de 65 ans. Mais le reste posait problème. En premier lieu, la relouqueuse du Conseil national de sécurité décréta, preuve à l'appui, que la copie ne cadrait pas avec l'original figurant sur le linceul de Turin. Elle leur projeta les deux images, la photo négative du crucifié et la simulation obtenue par palette graphique, Jimmy tel qu'il se présenterait dans 4 mois, barbe et cheveux longs, 40 livres de moins. L'impression globale pouvait faire illusion, mais une fois les deux clichés superposés, on voyait bien, en lumière polarisée, que les proportions n'étaient pas les mêmes. Le nez du clone était plus court, plus étroit, et surtout, ses yeux étaient beaucoup moins grands, beaucoup moins ronds. Elle remplaça le visage de synthèse par l'hypogée des Aurélie, une fresque romaine datant du IIIe siècle, la première représentation connue d'un Christ avec barbe. Lorsqu'elle déplaça les filtres, le portrait mural se fondit dans l'image du linceul. Tout concordait. La ride transversale sur le front, le sourcil droit plus haut que le gauche, les grands yeux de chouette, larges et décalés, le triangle au-dessus du long nez aux narines évasées, les pommettes saillantes, l'espace sans poils entre la lèvre inférieure et la barbe. Soumises au même traitement optique, les effigies du Solidus et du Trémissis, monnaie byzantine du 7e siècle, présentèrent un respect similaire des proportions d'origine imprimées sur le linceul. Quand elle superposa de nouveau les traits de Jimmy Wood, les différences n'en furent que plus flagrantes.
« La duplication du génome n'obéit peut-être pas aux mêmes critères que la reproduction artistique »,
fit sèchement le juge Claiborne qui, au regard des fonds qu'il avait débloqués, avait à cœur de justifier l'investissement du contribuable. Le docteur Entridge déclara que, pour lui, les traumatismes subis par Jimmy dans sa tendre enfance et le syndrome d'exclusion dont il souffrait pouvaient justifier, sur le plan de la morphopsychologie, la sous-dimension oculaire et nasale, refus de sentir, refus de voir. La relouqueuse, dont les compétences balayaient la physiologie, l'anatomie comparée et la chirurgie plastique, ajouta que la dégradation de la couche d'ozone avait rendu la luminosité beaucoup plus forte aujourd'hui qu'au 1er siècle, sans parler de la pollution de l'atmosphère. Indépendamment des facteurs psychologiques, le rétrécissement des organes olfactifs et visuels était une réponse de l'anabolisme aux conditions extérieures. Une légère intervention chirurgicale rendrait Jimmy conforme à l'image du linceul.
« Pas question, » s'insurgea Mgr Givens. « On ne retouche pas le visage du Seigneur. »«
Mais s'il n'est pas ressemblant, les gens n'y croiront pas, » s'alarma l'attaché de presse.
« Nous présentons une réincarnation, pas un sosie. » Le coach coréen avait parlé de sa voix chaude et lénifiante sur le ton d'évidence dont il ne se départait jamais. La référence bouddhiste heurta l'évêque, qui passa outre en acquiesçant, puisque son voisin abondait dans son sens.
« Et il y a plus grave encore !» s'entêta l'attaché de presse. « C'est la jambe droite. Montrez le linceul en pied, Rebecca.
Regardez, on voit bien qu'elle est plus courte que la gauche. D'ailleurs, la tradition des pères grecs parle constamment d'un Christ boiteux. Je regrette, je ne connais rien au clonage, mais c'est très handicapant pour moi en termes de crédibilité que Jimmy ne boite pas.
« Cassez-lui les os pendant que vous y êtes !»
s'indigna Mgr Givens. « Très bien, mais ne venez pas vous plaindre si le Vatican le rejette parce qu'il n'est pas aux normes. »«
Franck Apalakis, gronda gentiment Buddy, je connais l'efficacité de vos plans médias, mais le travail qu'on vous demande sur l'image du Messie n'a rien à voir avec un chantier de reconstruction à la Michael Jackson. »
De toute façon, renchérit la relouqueuse, la symétrie des jambes sur l'image s'explique aisément. La rigidité cadavérique les a fixées dans la position où elles étaient sur la croix, l'une sur l'autre et la droite repliée, pour utiliser un seul clou.
Les lèvres pincées, l'attaché de presse redescendit sur son bloc-notes, humilié dans sa rigueur professionnelle comme dans la culture orthodoxe héritée de ses aïeux marchands d'huile à Corfou. Le nutritionniste profita du silence pour exiger un pont aérien qu'il estimait indispensable à l'alimentation de Jimmy. Afin de ramener son patrimoine cellulaire aux conditions initiales, il ne consommerait que des fruits et légumes disponibles en Palestine 2000 ans plus tôt. La question épineuse de savoir s'il devait manger cachère ou non avait été résolue par Jimmy lui-même. Dans un souci d'œcuménisme, il serait végétarien. L'esprit de conciliation dont il avait fait preuve en l'occurrence répondit à un murmure approbateur dans la salle aux boiseries lisses décorées de trophées de chasse.